En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Alors, précautions oratoires, j'en ai deux. La première, c'est que, comme vous le voyez, les textes sont en anglais. Vous savez que je viens de Belgique et que pour résoudre nos problèmes linguistiques, flamands, wallons, il est devenu commun de présenter les textes en anglais. Et la deuxième remarque que je voulais faire, vous voyez le titre, donc c'est la radiologie sur le front de l'Ouest, mais je me permettrai de me limiter surtout sur la France, puisque c'est elle aujourd'hui qui m'invite. Alors, tout exposé commence évidemment par une table des matières, et je vais vous commencer par vous présenter un tout petit film, rassurez-vous, ça ne dure que 5 minutes, mais qui va vous montrer et qui va vous plonger dans l'ambiance radiologique au début du XXe siècle, et qui va vous montrer surtout la difficulté avec laquelle, même dans le secteur civil, sans turbulence, sans déménagement, il était déjà précaire et très difficile de pratiquer un examen. Ensuite, je vais vous montrer très brièvement l'équipement radiologique de cette époque. Je ne vais pas rentrer dans des détails techniques, ça ne vous intéresserait pas, et encore, ce ne serait que des radiologues qui seraient intéressés, mais pour vous montrer encore la difficulté de pratiquer des examens radiologiques avec l'équipement rudimentaire de l'époque, et pour montrer aussi qu'en fin de compte, tous nos aînés, c'était quand même des pionniers dans le domaine, et que de temps en temps, les mettre en valeur, ça mérite toute notre admiration. Alors évidemment, je vais vous montrer, ça c'est le topic évidemment, c'est l'équipement radiologique militaire et les véhicules, on en parlera tout à l'heure. Alors je vais aborder un tout petit problème spécifique de militaire, c'est évidemment les projectiles, on en a déjà abordé, mais ce qu'on nous demandait, c'est de pouvoir les localiser, car on l'a rappelé, les antibiotiques n'existaient pas, il fallait les enlever très rapidement, puisque c'était source d'infection, gangrène, lymphangite et éventuellement mort. Alors, on l'a déjà évoqué, c'est Héraclite, je crois, qui disait que la guerre, c'est la mère de tout, de toutes les connaissances, et malheureusement, en radiologie, ou heureusement, c'est selon, beaucoup de progrès ont été accomplis grâce ou à cause de la guerre, et j'en aborderai quelques-uns. Et enfin, tout exposé se termine par des conclusions qui seront brèves. Alors, je vais commencer par vous présenter un court extrait d'un film. C'est un film anglais qui montre une jeune journaliste qui vient dans un hôpital faire un reportage et on se bornera à la section radiologique. Alors, elle est accompagnée du directeur de l'hôpital. Et on va dans une salle de radiologie, vous allez voir comment l'examen se pratiquait. Je vous demanderai surtout de regarder à la fin de l'examen, quand la journaliste salue le radiologue qui termine cet examen. Alors, c'est en anglais, évidemment. Hein.
Now tell me, have you ever seen inside a human body?
No operations, Mr. Holland, you promise.
Not a single cut, not a single drop of blood. X-rays.
Mr. Keneally from the Daily Mail?
Yes, of course. Now, calibrating. Yes, could you narrow the spark gap on the induction coil, please? Thank you. Good, yes. Now we're getting a good colour now. Now, these plates are well coated, so it'll be about a 1 minute exposure time.
By using X-ray, we can see inside the body. The London leads the field in this work, opening up God's creation to ever greater scrutiny. Isn't that right, Mr. Wilson?
Oh, yes, something like that, sir, yes. Stand back.
Can I see?
It's best if you stand back, miss, if you don't mind.
What's happened to the patient?
It was a sewing needle. We get lots of these factory accidents. And with the X-ray, we can see where it's lodged. Needles in haystacks, really. Now, you really must.
How does it work?
Well, would you bear with me just for 1 second? Well, the installation consists of a 10-inch coil there and a condenser, Müller gas tubes with a vacuum regulator. And this sits, as you can see, under the patient. This plate here, treated with barium plus a cyanide fluoresces in the dark, giving us an image. It's a little like a photograph. And if you stand back, I shall demonstrate. No, easy, mother. There you go. Well, we should be getting something through now. Steady. That's well.
Never seen the like. It's magic.
Magic indeed. It's science. Thank you, everyone.
Thank you.
Donc, vous voyez, ça se faisait dans l'obscurité. Il ne connaissait pas les dangers des rayonnements. Il a un beau cas, si on peut dire, de radiodermie. Bref, c'était un peu pour vous remettre dans l'ambiance comment ça se pratiquait dans le secteur civil, où ça se pouvait faire à l'aise et de temps en temps, il y a un malade qui venait. Donc, vous imaginez, transporter tout cet équipement dans des véhicules d'ambulance avec des plaques en verre, parce qu'à l'époque, les films cellulose n'existaient pas, avec de l'électricité aléatoire. Bref, c'était une véritable épopée. Alors, on va vous présenter ici un tube radiologique. Rassurez-vous, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est un tube où il y a un vide important à l'intérieur et il y a quelques électrons qui survivent, si on peut dire. Et quand on fait une différence de potentiel, les électrons qui ont une charge négative vont vers l'anode positive et cette collision entraîne la production de rayonnement X. Et le système est très peu performant parce que c'est à peu près 98% est transformé en chaleur et seulement quelques pourcents en rayon X. Donc le grand problème, c'est de trouver des alliages qui permettent de supporter cette chaleur. Au début, les tubes fonctionnaient une ou deux fois et puis ils ne fonctionnaient plus. Pas parce qu'ils étaient cassés, mais parce qu'il fallait les laisser refroidir. Parce que tous les électrons étaient cannibalisés sur l'anode, et un des procédés, c'était le refroidissement. Il y a d'autres procédés, je ne vais pas vous embêter avec tous ces détails. Ici, c'est avec un système de tiges en platine, où avec un bec bunzène, on introduisait, entre guillemets, des électrons dans le système pour continuer. Donc, vous voyez le bricolage que c'était à côté de la fragilité. Ça, c'est pour le tube. Et le générateur, je vous ai présenté ici un générateur français de la firme Geff. Regardez les pieds de cet appareil, c'est magnifique, c'est un art nouveau. Mais vous vous rendez compte que transporter ça dans une camionnette, avec les soupapes qui sont là en haut, ce sont ces deux tubes en verre que vous voyez au-dessus, c'était une performance. Oh, je ne sais pas que c'était tellement lourd, mais c'était ultra fragile, quoi. Ouais. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail du fonctionnement, simplement attirer votre attention sur le sphinctermètre. C'est un Français, Beckler, dont le nom, je pense, vous est connu, qui avait imaginé ce système. Il faut savoir que les kilovoltmètres n'existaient pas à l'époque. Alors, vous savez, les câbles à haute tension sont toujours à une certaine distance, parce qu'ici, ils sont trop rapprochés, il y a des courts-circuits. Eh bien, c'est cette propriété des courts-circuits qui a été utilisée. Vous avez deux tiges qui, au fur et à mesure que vous les séparez, au plus, la tension est forte avant qu'il y ait un court-circuit. Donc, empiriquement, dans les vieux descriptifs, on disait, j'ai réalisé une radiographie avec 12 cm de distance. Tout le monde savait que c'était de la haute tension, entre guillemets. Si c'était 2-3 cm, c'était de la basse tension. Donc, vous voyez le bricolage avec lequel il devait travailler. Alors, je passe sur l'approvisionnement en électricité. Il faut savoir que la radiologie a été pratiquée avant qu'il y ait des distributions d'électricité. Et les Anglais, très pragmatiques, parce que c'est un des premiers qui ont pratiqué la radiologie on the field. Et vous avez là un vaillant collaborateur de radiologue qui pédale sur son vélo à 45 degrés à l'ombre, en Mestaba le long du Nil, par exemple, pour accumuler l'énergie pendant une demi-heure pour faire seulement un seul cliché. Donc, quand Diesel est venu avec ses génératrices, les collaborateurs des radiologues étaient particulièrement heureux.
C'est pas sûr, ils ont perdu leur emploi.
Oui. Alors, nous arrivons maintenant au véhicule. Et il faut rendre à César ce qui est à César. Ce sont les Français, les premiers, qui ont développé le système de réaliser des véhicules radiologiques. Et vous voyez qu'il y a une découpe là, en dessous du volant, pour vous montrer qu'on faisait tourner le véhicule à l'arrêt. pour précisément donner la puissance électrique nécessaire. Bon, vous voyez la date 1904, et ce matériel a été testé à la grande manœuvre 1904, entre autres, et lors de la manœuvre, les attachés militaires des autres pays étaient présents, et la manœuvre n'était pas terminée, que les Allemands ont été à Berlin, leur grand quartier général, et dire « on doit avoir ça ». Et effectivement, au début de la guerre, l'armée allemande avait, outre des dizaines et des dizaines de véhicules hippomobiles, ils en avaient déjà 20 automobiles. La France n'avait strictement rien parce qu'elle avait décidé de ne pas décider. Et ça va continuer jusqu'à la guerre de 14, où ce n'est pas les militaires qui, eux, insistaient, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est le pouvoir politique qui postposait. Il fallait d'abord des canons. Enfin, le service médical était considéré, dans beaucoup d'armées d'ailleurs, comme étant la dernière préoccupation. Bon, toujours est-il, donc, c'est une idée française, comme très bonne idée d'ailleurs, qui a été reprise par d'autres, et en particulier les Allemands. Alors, on a déjà parlé du Petit Palais ce matin, et dans le domaine radiologique, regardez ici une installation magnifique, pied de paix, si on peut dire, mais transportée. Vous retrouvez d'ailleurs le bel appareil GEF, et vous voyez aussi la manière dont on pratiquait les examens, parce que le tube que vous voyez à droite, à côté du personnage en blanc, eh bien, il n'est pas du tout protégé et ça irradiait joyeusement. Le malade, ce n'est pas grave parce qu'il partait, mais le personnel. Et c'est comme ça qu'à cause ou à grâce à la guerre, on va voir les dégâts que ça va provoquer. Et seulement après la guerre, on va prendre les mesures nécessaires en matière de radioprotection. Alors, on ne peut pas passer sous silence l'action de Marie Curie, qui, parallèlement au service de santé qui n'avait donc pas de véhicules militaires au début de la guerre, il n'avait que du matériel transportable dont le général Morillon ce matin a présenté l'équipement des troupes d'Afrique qui étaient transportées à dos de mulet. Eh bien, le commandement a commencé à réquisitionner des véhicules et c'est le docteur Arret qui les a équipés, qui était un élève de Beckler d'ailleurs, et qui a équipé donc ces voitures. Donc en septembre, il y en avait quelques-unes, en 15, il y en a à peu près une vingtaine, mais ça ne suffisait pas et c'est là que Madame Curie intervient en créant un service de santé auxiliaire de radiologie avec tous les aléas administratifs qu'elle a eus pour arriver en tant que femme au front. Ça fait partie du beau film que vous avez sans doute vu sur Marie Curie. Entre parenthèses, ce film que vous avez sans doute vu, tout le matériel radiologique de ce film provient de notre musée. Elle ne s'est pas contentée de venir au front en France, elle est venue en Belgique et regardez déjà la date, en décembre 1914, elle est venue à Furnes apporter du matériel à la demande d'un gynécologue belge qui avait connaissance des activités radiobiologiques chez Madame Curie et qui, devant le manque de matériel, avait demandé le soutien de Marie Curie. Et à son grand étonnement, Marie Curie est venue personnellement apporter ce matériel et vous la voyez ici en compagnie de sa fille, Irène. Et à gauche, c'est le chirurgien Soutard, car il y avait un hôpital belge, mais équipé, et le personnel était britannique, c'était le Belgian Field Hospital, qui avait d'abord été à Anvers, et puis avec le départ des troupes d'Anvers sur l'Isère, avait accompagné. Alors ici, je vous montre des équipements belges, mais en France c'est exactement la même chose. Et j'aime bien celui-ci parce que je crois que c'est l'équipement que Marie Curie a apporté, parce que le Belgian Field Hospital a été déplacé de Furnes sur Hoogstad. Et je m'imagine mal devant la pénurie des équipements que cet hôpital en aurait eu deux ou trois. Donc je pense, d'ailleurs c'est du matériel français, que c'était cet équipement que Marie Curie donc, a apporté. Je trouve ça une très belle photo parce que est-ce que c'est par hasard ou est-ce que c'est le photographe qui s'est arrangé, mais les pièces importantes sont éclairées. Je vous montre un autre équipement pour vous montrer Vous voyez sur le mur à droite, il y a une archelle avec des tubes. Eh bien, chaque service de radiologie avait une collection de tubes qui étaient utilisés quand l'un ne fonctionnait plus, qu'il fallait laisser refroidir. On le mettait sur l'archelle et on en prenait un autre. Vous voyez le bricolage que ça se passe. Et ici, pour la beauté de la photo, on a levé les rideaux parce que tout ça, ça devait se faire dans l'obscurité la plus totale. Et vous voyez que ce qu'il faut pour la radiologie, il faut un tube, une cassette, une table de cuisine et un peu d'électricité. Et voilà tout. Hein. Alors, les véhicules, si ici c'est un véhicule belge, mais peu importe, la France avait exactement les mêmes. Et c'est un véhicule qui a été donc offert par la Croix-Rouge. Il faut savoir que les civils et la Croix-Rouge offraient énormément d'équipements. Et il n'est pas rare de voir des véhicules qui sont sponsorisés, on dirait maintenant, par la société d'aménagement de je ne sais qui. Alors, l'équipement que vous voyez, eh bien, c'est celui qui a été donc mis à la disposition de notre musée pour le film de Marie Curie. Malheureusement, il n'existe plus de véhicule, ni en France, je crois, en Belgique sûrement pas. J'aurais bien voulu avoir un véhicule pareil. Dans notre musée, j'ai une belle photo, c'est déjà ça. Maintenant, nous allons parler du problème médical particulier. Ne vous saisissez pas. On a tiré une balle et vous la voyez encerclée pour mieux la localiser. Le problème, la radiographie, c'est un document en deux dimensions d'un volume. Donc, le problème qui se pose, où se trouve ce projectile? Alors, la première chose qu'on fait, et qu'on fait toujours d'ailleurs, c'est faire un cliché de face et de profil. Et ça a son importance parce que sur ce petit graphique, vous voyez où la position du projectile peut se localiser. Et vous voyez la crosse aortique. Si le projectile est dans la crosse aortique, eh bien, il ne vient même pas à la radiographie, il est mort sur place. S'il est dans le canal médulaire, eh bien, le pauvre patient, il est ici paraplégique. Donc, il est très important de pouvoir localiser ce projectile pour l'extraire, pour les raisons que je vous ai déjà évoquées. Alors, pour ce faire, on peut faire le cliché de profil. Ça, c'est d'ailleurs le principe radiologique. On fait toujours un cliché face-profil. On l'a levé trop loin, voilà. Alors, une autre technique, c'est le compas de Hirth. J'ai présenté Hirth parce que c'était le radiologue français militaire qui avait développé une technique avant la guerre. Je ne sais pas si vous vous rappelez des cours de trigonométrie. Moi, je trouvais que c'était les plus ennuyeux possibles. Mais si vous mettez, ce qui est le cas ici, trois repères sur la peau et que vous faites deux clichés sur la même plaque photographique par des calculs fastidieux, de trigonométrie, vous savez déterminer la profondeur. Bon, ça, c'était une technique qui était fort utilisée et tous les belligérants avaient d'autres méthodes, mais à peu près basées sur le même principe. Alors, voilà les calculs, le schéma et les calculs trigonométriques. Très fastidieux, comme vous pouvez imaginer. Et la deuxième technique, c'était la scopie. Alors ici, c'est assez amusant. Le radiologue, c'est celui qui a cette grande bonnette de dessin. Et le chirurgien, c'est celui qui a ce long index. Et c'est en fait l'aveugle et le paralytique, parce que le radiologue, il voyait tout, il faisait rien. Le chirurgien faisait tout, il voyait rien. Donc, vous voyez la difficulté qu'il y avait pour extraire les projectiles à cette époque. Alors, les scopies, bien sûr, les dangers des rayons X étaient connus déjà 1896. Mais vous savez, savoir et appliquer quelque chose, c'est pas du tout facile à faire. Et c'est grâce ou à cause de la guerre qu'il y a tellement de cas de radiodermite. Surtout dans les services de santé français, parce qu'ils mettaient leur point d'honneur à extraire le maximum de projectiles, plus que les autres belligérants, qu'ils ont payé un tribut énorme. Et dans le livre de Palardy, qui était donc un radiologue, un professeur de radiologie à Cochin, qui a fait un magnifique ouvrage, il dit aussi, pas dans cet ouvrage, mais dans un article, que proportionnellement, les radiologues ont payé un tribut presque aussi important que les infanteristes à Verdun. Donc, ils ont perdu énormément d'hommes à cause de ça. Alors, ce sont des radiodermites, c'est un nom savant pour dire que c'est des brûlures par les rayons. Ce sont des brûlures qui sont inguérissables, particulièrement douloureuses, et le traitement, c'est l'amputation. Donc, on commençait en général par un doigt, une main, un avant-bras, etc. Ça vient d'ici à Paris. Ça vient du... Je ne sais plus lire ici. Est-ce qu'on sait lire, là, le... Oui, oui. Oui. Alors, la grande découverte et innovation, c'est la tomographie conventionnelle de M. Bocage. Il faut savoir que ce monsieur était un dermatologue, et en temps de guerre, ce n'est pas la première spécialité dont on a besoin. Et ce brave homme était chargé de faire les calculs fastidieux de trigonométrie pour localiser. Il en avait ras-le-bol et il a développé la tomographie. Très simplement, il faut trois choses. Il faut un tube, le tube se déplace dans un sens. Il faut une cassette où il y a le film qui se déplace dans le sens opposé. Et au point de rotation, vous mettez votre malade. Le malade a une certaine épaisseur. En fonction de la zone que vous voulez analyser, avec une petite manivelle, ça monte et ça descend. Bon, c'est un truc ultra simple, il fallait y penser. Et il a développé ça donc en 1916 et son brevet est sorti seulement après la guerre. Tout le monde a cherché et comme tout le monde ne lisait que la littérature de son pays, tout le monde a découvert l'eau chaude. Mais ça, la vérité a ses droits, c'est Bocage, un Dijonnais d'ailleurs, qui a imaginé le premier, la tomographie conventionnelle. Alors on arrive maintenant au bénéfice de la guerre et j'arrive à l'apport des troupes américaines qui vont apporter d'abord le film en cellulose. C'est Eastman qui va devenir Kodak. En 1913, il va développer le film radiologique. Le film conventionnel pour les photos existait déjà bien avant, mais lui s'était rendu compte qu'il y avait un marché potentiel important et qui a donc développé le film radiologique qui va être importé par les troupes américaines en 1917 et qui va remplacer toutes les plaques. Et vous avez ici, par exemple, une plaque de notre musée qui est évidemment cassée. Vous devinez vaguement que c'est un bassin. Donc voilà, ça a été un progrès énorme. Et voilà une belle photo. C'est un médecin français dont j'ignore le nom, mais je trouve cette photo magnifique que je vous présente ici. Un médecin qui regarde donc à la lumière du soleil un film radiologique. L'autre découverte, c'est le tube de Coolidge. Sans entrer dans les détails, on remplace ici la projection des électrons par un petit filament dont on peut régler arbitrairement le débit. Alors ce sont des tubes qui ont des valeurs constantes et une durée de vie énorme. Et tous les tubes actuels, ce sont des petits-fils et des petits cousins de ce fameux tube de Coolidge. Ça sera les deux grandes révolutions, je dirais, au point de vue technique. Alors, au point de vue équipement, les Américains, quand ils sont arrivés en 17, ils n'ont pas mis tout de suite leurs troupes en action. N'oublions pas qu'ils étaient arrivés avec leur chapeau de cow-boy et leur guêtron en carton et que ce n'était pas du tout le genre de climat qui se prêtait à ce genre de choses. En plus, ils n'étaient absolument pas équipés ni en logistique, ni en médical. Et ils ont commencé à regarder partout comment les autres avaient commencé à résoudre le problème. Et en ce qui concerne la radiologie, ils sont tombés en arrêt devant la difficulté et le poids des véhicules utilisés, tant par l'armée britannique que par l'armée française. Et comme ils avaient à Bordeaux une usine forte, ils ont assemblé les parties du véhicule pour faire les fameuses Forte 4N, N qui sont donc pour le service médical, et pour les alléger encore, vous voyez, la carrosserie est en espèce de toile et qui permettait de transporter très rapidement et très facilement l'équipement qui était déployé en 5 minutes. Ils avaient donc imaginé un système ultra performant et c'était les deux chevaux de l'époque. Ils pouvaient avoir de la neige, du verglas, de la boue, n'importe où. Ça passait partout, à telle enseigne que l'armée française s'est équipée également de véhicules forts et que, vu la demande, ils ont déplanté l'installation qui était à Bordeaux, près de Paris, pour pouvoir faire face à la demande. Eh bien voilà, nous on arrive déjà aux conclusions, et je pense que j'ai respecté mon temps de parole. La grande vainqueur, si on peut dire, ou le grand vainqueur de la Grande Guerre, ça a été la radiologie, parce qu'elle s'est généralisée. Ça a été un point terrible. Il n'y avait plus un hôpital, une consultation, un sanatorium qui n'était pas équipé d'au moins une installation. Et vous en voyez une ici, une reconstitution de notre musée, où on voit dans les années 20 comment les examens étaient pratiqués. Les gens ne se déshabillaient pas. C'était un peu... Et vous voyez la dame avec son beau petit chapeau, etc. Alors, une autre conclusion, nous arrivons, comme dans les émissions de télévision, à la minute de publicité, et ceux qui veulent en savoir plus, eh bien, ils n'ont qu'à consulter le livre que nous avons sorti. Et là-dedans, on parle évidemment de l'apport des troupes allemandes, parce qu'on a voulu avoir les deux camps, donc allemands, américains, anglais et belges aussi. Alors, la vraie dernière conclusion, c'est une citation du fort de Verdun que vous connaissez tous, qui ignore le passé et n'est pas digne du présent. Je vous remercie.
Merci à vous. En ce qui me concerne, j'ai tout appris. Je ne savais rien de tout cela. Mais nous avons des gens qui savent. Alors, ont-ils envie de prendre la parole, des compléments, de demander des précisions?
Et déjà en application à cette époque de la Première Guerre mondiale ou pas? On a des clichés statiques là.
La radioscopie nécessite moins de puissance.
Oui.
Et c'est la raison que il faut savoir qu'au début, pour faire une radiographie d'une main, il fallait un quart d'heure. Si vous vouliez un thorax, il fallait une heure. Donc, à part ceux qui sont morts, on ne savait pas faire la radiographie du thorax. Donc, ça a été un concours de vitesse pour diminuer le temps d'exposition, ce qui va être aussi bénéfique pour la radioprotection. Là, pour une fois, ils sont objectifs. Donc, ils vont d'abord utiliser la scopie. Et le deuxième élément, c'est que ça ne coûte pas en film. Donc, ils ont massivement utilisé la radioscopie, avec les dégâts, évidemment, que l'on peut imaginer.
J'ai parfaitement compris, vous nous avez parfaitement démontré que la radiologie a prodigieusement bénéficié de la guerre. Est-ce que les blessés ont beaucoup profité de la radiologie? De ses progrès, enfin.
Oui, parce que, évidemment, dans le livre de Marie Curie, elle exagère un peu, mais elle dit que grâce à ça, il y a eu 100 000 patients qui sont passés en radiologie et qui, grâce à ça, ont été sauvés. Parce que il n'y avait pas seulement que les fractures, il y avait parfois aussi des maladies, beaucoup moins, mais le gros problème, c'était les corps étrangers. Dans la mesure où ils étaient métalliques, il y avait même des systèmes où on dirigeait sous scopie une tige métallique vers le projectile avec un électro-aimant. D'ailleurs, il y a un médecin Tribondeau en France, et nous avions l'équivalent en rare en Belgique, qui avait développé des systèmes pour extraire sans trop délabrer les tissus. Donc ça a vraiment, véritablement fort aidé.
Oui, ma question est, c'est évident que ça a aidé ceux qui en ont bénéficié. Ma question, est-ce qu'il y en a beaucoup qui en ont bénéficié?
Oui, quand il y avait chaque fois qu'il y avait un problème, ça se passait à la scopie ou à la graphie. Oui. Au début, pas parce qu'il n'y avait pas assez d'équipement, mais ça a été rapidement comblé.